merveilleux, le cinéma. On voit des femmes, elles ont des robes. Elles font du cinéma, craque, on voit leur cul.
Ma fiancée trouvait mon nom très ridicule. Il la choquait, je crois, alors sans préambule. Un soir, elle est partie, sans un mot, sans adieu. Mes yeux, depuis 10 ans, n'ont plus croisé ses yeux.
Camille.
Elle m'avait appris dans le plus doux moment.
C'est moi, Paul. Il y a 5 minutes au moins que je te regarde, j'ai l'impression de te voir pour la première fois.
Non, mais je vais pas entendre des conneries toute ma vie. Recevoir des leçons abaissées jusqu'à la fin des temps. Écoutez un écrivain qui n'écrit rien, un boxeur qui veut pas boxer. Des bonnes femmes qui couchent avec n'importe quoi. Merde.
Tu peux rester ou ça t'ennuie?
Reste si tu veux.
C'est très orgueilleux ce que je veux dire, mais je le pense profondément. Je crois que la personne la plus triste, le jour de ma mort, ce sera moi-même. Je crois que je me regretterai beaucoup. Voilà. C'est tout ce que je peux dire.
Bonjour Anne-Sophie Mercier.
Bonjour.
Vous publiez Michel Piccoli derrière l'écran chez Alary Édition. Vous tentez de répondre à cette question particulièrement complexe. Qu'est-ce qui fait qu'une femme, qu'un homme devient un grand acteur? Pourquoi Piccoli était-il un si grand acteur pour tous les Français?
Je crois que la réponse, enfin, je crois, c'est un peu prétentieux de dire ça. C'est ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, à travers à l'issue de l'enquête que j'ai menée. Je crois que la réponse se trouve dans son enfance, une enfance assez compliquée, pas forcément heureuse, puisque Michel Piccoli est un enfant de remplacement qui naît après le décès de son frère aîné. Il vient pour remplacer cet enfant mort. On le lui fait comprendre, on le lui dit souvent, et peu à peu, cet enfant qui ne trouve pas sa place dans sa famille s'enferme dans un mutisme total, devient passif, malheureux, un peu violent aussi. Et ses parents, qui ont une très grande intelligence, comprennent que l'avenir de Michel Piccoli se passe peut-être en dehors de la sphère familiale, le place dans un établissement pour enfants un peu compliqué, un peu difficile, un peu déphasé. Et c'est là qu'on le répare, qu'on l'aide à repartir et qu'on le place dans une situation de liberté totale, qui explique, je crois, son sens de la liberté et ses engagements ultérieurs.
Il y a des bruits étranges autour de vous, Anne-Sophie Mercier, des canards en arrière-plan. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Vous évoquez dans votre biographie de Michel Piccoli une histoire familiale complexe, notamment du côté de sa famille maternelle.
Oui, si on veut comprendre les engagements de Michel Piccoli, et en particulier ses engagements politiques, je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ce que fut son grand-père, une personnalité extrêmement importante de la Troisième République, un sénateur, maire du 13e arrondissement de Paris, qui était un important financier du Parti radical, et qui était aussi un important industriel de la peinture. Et ça n'est pas un détail du tout dans la vie de Michel Piccoli. Cet industriel a été accusé par la gauche syndicale, par les milieux ouvriers, par Georges Clemenceau aussi, d'avoir intoxiqué des milliers, des dizaines de milliers d'ouvriers à travers un produit qui se trouvait dans la peinture, qu'on appelait le blanc de plomb, la céruse, et qui donnait aux ouvriers ce qu'on appelait le saturnisme. C'était une maladie qui transformait prématurément les gens en vieillards, en petits êtres malades, et les enfants en général ne survivaient pas au fait d'ingérer du blanc de plomb. C'était des traces de peinture par terre. Donc il y a eu un combat très fort entre son grand-père Charles et Clémenceau pour faire disparaître ce produit dans la peinture. Le grand-père, qui avait énormément d'entregents, a bloqué toutes les licitations, et la série n'a disparu en France que vers 1925. Et je crois que pour Michel Piccoli, c'est quelque chose là d'important. Son grand-père a fait la une de l'Assiette au beurre à plusieurs reprises, de la cause du peuple. C'est devenu le grand méchant du patronat. Et je pense que tous ces engagements à gauche, ces engagements contre le pouvoir de la finance, contre le monde de l'argent, s'expliquent aussi par un engagement aux antipodes de ce que fut son grand-père.
Et donc un lien entre cette histoire familiale un peu compliquée, l'enfant turbulent qu'il était, et puis le grand acteur qu'il est devenu, plus de 200 films, dont Le Mépris à Bémous. Papam, il est mort. Et donc le 12 mai, à l'âge de 94 ans, Michel Piccoli, Anne-Sophie Mercier, dans sa manière de jouer, qu'est-ce qu'il a imposé? Parce que, a priori, dit-on, Michel Piccoli n'avait pas particulièrement de prédestination à devenir un acteur, son physique, est-ce que c'est sa voix? Bref, comment expliquer la place si particulière que Piccoli a occupée dans le cinéma?
Il y a d'abord ces années de formation dans un cours de théâtre qui s'appelait le cours Boer-Théron, qu'ont fréquenté des gens comme Anouk Aimée ou Françoise Arnoul, où la formation était extrêmement artisanale. On montait sur scène un crayon entre les dents, on apprenait à prononcer, à faire passer les émotions sans en rajouter. C'était une espèce de, avant la lettre, d'underplay, c'était très cher à Melville. D'abord la technique et les grands sentiments, les effusions après. Mm-hmm. Apprendre à maîtriser un texte et à le faire passer sur le plan de la technique. Mm-hmm. Il y a cet apprentissage-là. Il y a aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire une envie de liberté permanente chez Piccoli. Ne pas se laisser enfermer. Piccoli a fait d'immenses films avec Claude Sautet. Il a joué Les choses de la vie, Les tourments de la bourgeoisie pompidolienne. Mmh. Mais il ne se laisse pas enfermer là-dedans. Il joue avec Ferreri. Il joue Dillinger est mort. Il joue des films avec Claude Faraldo. Il joue aussi le cinéma de la radicalité. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu se laisser enfermer dans un monde. Et donc je crois que sa place très particulière, s'explique par ça.
Lorsqu'il joue par exemple dans Le Mépris, est-ce qu'il se rend compte que ce film va occuper une place aussi importante dans l'histoire du cinéma, Anne-Sophie Mercier?
Je n'en suis pas persuadée parce que Michel Piccoli ne calcule pas ces choses-là. Il rencontre des metteurs en scène, il part sur un projet sans vouloir savoir si après ça va faire de lui une star ou si ça va lui rapporter énormément d'argent. C'est aussi la clé de son succès. Il y va au feeling, il y va à l'envie, sans calculer grand-chose.
Et justement, lorsqu'on s'interroge sur la distinction entre un grand acteur et une célébrité ou une vedette, ce qu'il y a de particulièrement étrange, c'est que finalement, on ne savait pratiquement rien, on ne sait pratiquement rien sur la vie de Michel Piccoli, d'où l'intérêt de la biographie que vous lui consacrez, Anne-Sophie Mercier.
Oui, on sait peu de choses. Michel Piccoli ne s'est jamais vécu comme une star. D'abord, il avait des mots très très ironiques et très drôles sur le narcissisme des stars, sur ce petit milieu. Et puis, il faut savoir que c'est quelqu'un qui, très jeune, a eu une espèce de flash d'amour fou pour l'homme invisible. Il l'a confié dans un livre qu'il a publié il y a très longtemps. Il a dit je rêvais d'être un homme entouré de bandelettes, l'homme qui va dans la rue et que personne ne reconnaît. Et je crois que c'est quelqu'un qui a voulu se fondre dans ses rôles et non pas devenir une personnalité connue. Ça ne l'a jamais intéressé.
Et justement, est-ce que la distinction qu'on fait traditionnellement entre les célébrités et les acteurs, le fait que on les dépeint comme ayant un physique passe-partout, même si sa voix était particulière, est-ce que ça explique justement la place qu'il a occupée en le distinguant d'autres personnages qui aujourd'hui occupent la scène, la première scène du cinéma?
Oui, je pense qu'on peut dire ça. Avec aussi une volonté d'être d'abord un rôle. Il n'est pas Piccoli, il est Max dans Max et les Ferrailleurs. Il n'est pas Piccoli, il est l'architecte dont l'Alfa Romeo quitte la route dans Les choses de la vie. Et je crois que ça a toujours été au cœur de sa démarche. Le reste est totalement anecdotique. Et quand il dit la première personne qui sera triste de ma mort, c'est moi-même, il faut évidemment le prendre au second degré.
Peut-être terminer, Anne-Sophie Mercier, par un film parmi les 200 qu'il a fait, un film plutôt méconnu parmi ceux qu'il aurait joué, Michel Piccoli.
Alors, dans les films méconnus, moi, j'ai eu un coup de foudre pour un film qui est paru, qui est sorti en 2009, qui est donc un film de la maturité, qui s'appelle Le Bel Âge, avec un jeune metteur en scène qui s'appelle Laurent Perrault, à qui il a donné sa chance. Et je crois que Michel Piccoli joue là un fabuleux rôle de grand-père, un peu paumé, très aimant aussi, très subtil, très déstabilisé. Je crois que c'est là un de ses plus beaux films, mais il me semble qu'il est passé inaperçu, que c'est un peu injuste.
Merci beaucoup, Anne-Sophie Mercier. Merci d'avoir évoqué avec nous Michel Piccoli, Derrière l'écran. C'est la biographie que vous avez consacrée à ce grand acteur chez Alary Éditions.